On est vendredi matin, c'est le 16 juin aujourd'hui, 7h31. C'est parti pour le journal. Élodie L'Argenton, bonjour.
Bonjour Moreto, bonjour à tous. À la une, cette info Radio 1, c'est Alcatel qui décroche le marché du câble domestique Natitua, le câble qui va relier Tahiti au Tuamotu et aux Marquises. 2 ans après la fin de l'épidémie de chikungunya, certaines personnes se plaignent toujours de douleurs articulaires. Quelques patients sont même cloués au lit. Comment expliquer ça? On fait le point dans ce journal. On s'intéresse aussi à Makemo, à la recherche d'une solution pour éviter le blackout. L'autorité polynésienne de la concurrence invite les consommateurs à la patience. Son action aura des répercussions, mais il est encore un peu tôt pour le voir. Et puis on connaîtra ce soir la gagnante du concours de mannequins organisé dans le cadre de la Tahiti Fashion Week.
C'est Alcatel qui décroche donc le marché du câble domestique Natitua. C'est une information Radio 1.
La société Alcatel Submarine Networks a été choisie mercredi soir par le conseil d'administration de l'OPT pour cette opération à 7 milliards de francs. Le câble domestique Natitua reliera à Tahiti, au Tuamotu et aux Marquises. 10 îles et atolls seront desservies directement par le câble en très haut débit. Ce sera le cas par exemple de Rangiroa, de Makemo ou encore de Nuku'iwa. 10 autres îles et atolls seront desservies en haut débit par un réseau de faisceaux hertziens. Alcatel a donc remporté ce marché face à 2 autres concurrents dont l'un s'est désisté en cours de route. L'OPT a d'ores et déjà fait des demandes de défiscalisation en métropole et attend une réponse. Mais pour ne pas perdre de temps, l'OPT a engagé des dépenses pour les études. Ce câble devrait être en fonction fin novembre, début décembre 2018.
L'épidémie de chikungunya qui a touché la Polynésie française entre septembre 2014 et mars 2015 a touché environ les 2/3 de la population.
Et plus de 2 ans après, certaines personnes se plaignent de ressentir à nouveau des douleurs articulaires. C'est le cas de Roland, un employé de la Poste qui habite à Paea. Il a eu le chikungunya en novembre 2013 et il n'a commencé à aller mieux qu'en juin 2014. Depuis fin mars, les douleurs sont revenues. Pendant plus de 2 mois, Roland est resté cloué au lit et les douleurs sont toujours présentes, comme le raconte sa femme Veinamou.
Il s'est beaucoup blessé étant jeune. Il a eu fracture à une cheville et puis 2 grosses foulures au genou et puis à l'autre cheville. Et donc, ça s'est déclaré à ce niveau-là. Donc, il ne pouvait pas marcher, il ne peut pas se déplacer. On était obligé d'aller chercher une chaise roulante pour pouvoir au moins le nettoyer un peu et tout ça. Il pouvait se lever et puis s'asseoir et c'est tout. Mais il souffre beaucoup. On le traite avec du doliprane et ça ne fait rien du tout.
Pour le médecin de Roland, le docteur Rémi Redouté, ces douleurs sont vraisemblablement liées à l'infection au chikungunya. Ce sont des complications qui sont désormais bien connues mais qui ne touchent pas tout le monde, explique le médecin. Il y a de moins en moins de cas chaque année, mais difficile d'avancer des chiffres. Il n'y a pas de suivi de l'épidémie de chikungunya. Le bureau de veille sanitaire est chargé de recenser les nouveaux cas et les épidémies actuelles. Et en ce moment, il y a de nombreux cas de grippe. Est-ce qu'il pourrait y avoir un lien justement entre les douleurs articulaires dont souffrent certains malades atteints par le chikungunya il y a plusieurs mois et cette épidémie de grippe? Voici la réponse du docteur Redouté.
Ah, ça c'est la vraie question. On le soupçonne. C'est pas établi réellement, mais on soupçonne que la survenue d'une autre infection, hein, que ce soit la grippe ou la dengue, peut raviver les douleurs, les anciennes douleurs du tic.
Finalement, qu'est-ce qui vous permet de dire que pour cette personne-là, c'est le chikungunya et c'est pas
C'est une bonne question encore. J'ai pas de preuves rigoureuses. C'est plus l'évolution clinique de la maladie, quoi.
Impossible en effet d'avancer des preuves à ce sujet. Rien ne distingue une arbovirose d'une autre, souligne le docteur Lam, responsable du centre de consultation spécialisé en maladies infectieuses et tropicales. On ne peut pas mettre une étiquette sur un symptôme, dit-il. Ce qui est sûr, c'est que le chikungunya, on ne l'attrape qu'une fois et que le virus n'est plus présent. Il n'y est pour rien, affirme le docteur Lam, qui fait une supposition. Il pourrait s'agir d'un problème au niveau du système immunitaire.
Dans l'hypothèse où ce serait quand même dû au chikungunya, c'est pas le virus directement qui sont responsables de ces douleurs-là. Et très probablement, il y a l'implication du système auto-immun. La preuve en est qu'on a mis en évidence qu'après le chikungunya, les personnes qui l'ont attrapé développent plus, avec une fréquence beaucoup plus grande que la population normale, par exemple, des polyarthrite rhumatoïde. Or, on sait que la polyarthrite rhumatoïde est une maladie auto-immune. Donc, le mécanisme probablement est assez similaire, même si pour l'instant on n'a pas une compréhension très poussée là-dedans.
Et tant qu'on ne connaît pas le mécanisme de ces douleurs, impossible d'élaborer un traitement sur mesure. Les malades doivent donc se contenter de calmants et d'antidouleurs.
Le syndicat de défense des intérêts des retraités anciens et futurs, le SDIRAF, demande une rente de 25 milliards de francs à l'État au titre des conséquences des essais nucléaires.
Hier, une cinquantaine d'adhérents du syndicat ont marché du parc Paofeuille à la présidence, à Papeete, pour transmettre leurs demandes. Émile Vernier, le président du SDIRAF, affirme que les dépenses de santé ont explosé et il réclame donc une rente sur plusieurs années.
L'État a sa part de responsabilité dans la situation catastrophique, sanitairement parlant, de notre territoire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un Polynésien sur 8 est en longue maladie. La situation sanitaire de notre population s'est dégradée. Ces dégradations-là, c'est pas venu comme ça. On ne sait pas quelles sont les conséquences des irradiations. Peut-être qu'aujourd'hui, nous, on n'a rien, mais nos enfants risquent d'être touchés, et nos petits-enfants. Donc ça nous révolte. Et à l'avenir, l'hôpital va nous coûter la peau des fesses qu'on pourra plus payer. Donc il vaut mieux prendre les devants maintenant.
Le SDIRAF demande 25 milliards. Les syndicats, eux, demandent plus de 50 milliards. Pourquoi cette différence?
Moi, ce que je dis, c'est que l'État peut accepter, mais il va payer une fois. Après, c'est fini. Pour solde de tout compte, nous préférons une rente. Ces 25 milliards-là, c'est pendant plusieurs années, voire plusieurs décennies.
Des propos recueillis par Vaïté Ourari Pombrin.
Emma Kemo est en quête d'une solution pour éviter le blackout.
La justice doit bientôt rendre ses conclusions concernant la production et la fourniture de l'électricité à Makemo, un service public assuré depuis 10 ans par la SEM Temawito Happy, dont les éoliennes ne fonctionnent plus depuis plusieurs années. La SEM risque d'être liquidée, alors le Tavana, Félix Tokrangi, recherche désespérément un prestataire qui pourra reprendre le flambeau dans cet atoll des Tuamotu.
La commune n'est pas en mesure de récupérer ce bébé qui est un bébé mort. Nous avons en Polynésie française des concessionnaires qui désireuses de prendre cette centrale, pour ne pas citer EDT ou d'autres.
Est-ce que vous avez contacté EDT et quel est leur sentiment à eux par rapport à une reprise de l'électricité?
Non, aucun contact pour le moment n'a été lié avec EDT. Ce que nous souhaitons, c'est que le pays, l'État et nous-mêmes puissions entreprendre les choses légalement.
À part EDT, qui a d'autres sur le marché?
Plus rien du tout. Peut-être d'autres investisseurs d'une autre planète pourraient arriver et puis dire nous avons la solution.
Le maire de Makemo au micro de Vaïté Ourari Pombrin.
Et l'autorité polynésienne de la concurrence dresse un premier bilan de son activité à l'issue d'un an de travail réel.
Pour le président de l'autorité Jacques Méraud, les entreprises perçoivent la différence, c'est sûr. Pour ce qui est des consommateurs, en revanche, l'impact n'est pas flagrant. Il faut être patient, plaide Jacques Méraud.
Si on veut déréglementer ou libéraliser l'économie, ça veut dire qu'on n'a pas une manette qu'on va inverser de sens, qui va donner un résultat immédiat, comme un robinet vous donne de l'eau quand vous tournez le robinet. Voilà. Le résultat pour les consommateurs, il va arriver progressivement à partir du moment où le jeu entre les entreprises sur un marché va devenir plus concurrentiel. Donc c'est évidemment pas en quelques mois que les choses peuvent changer.
Le travail entamé par l'autorité de la concurrence sur le régime des PPN a eu un premier effet sur le portefeuille des consommateurs. Le prix du riz a baissé dans plusieurs commerces. Le gouvernement est gagnant lui aussi puisqu'il économise de l'ordre de 250 millions de francs de subventions qu'il ne donne plus d'après le président de l'autorité. L'autorité de la concurrence dont les avis ne sont pas toujours suivis des faits. Il y a déjà plus de 6 mois, plusieurs recommandations ont été faites pour améliorer la convention hydrocarbures. Ça permettrait de faire baisser le prix du carburant et même de l'électricité. Mais pour le moment, aucune action concrète n'a donc été engagée à la suite de cet avis.
Et puis, petit rappel, on est à 24 heures du deuxième tour des législatives.
Les bureaux de vote ouvriront à 8 heures dans les 48 communes du pays. Comme au premier tour, les bureaux fermeront à 18 heures dans de nombreuses communes. Mais à Tahiti et Moorea, les bureaux fermeront une heure plus tard à 19 heures, sauf à Harwe. Fermeture à 19 heures aussi dans les communes les plus peuplées des îles Sous-le-Vent, des Australes et des Marquises. Et comme toujours au premier tour, Bora Bora fait exception. Là-bas, les bureaux de vote ne fermeront qu'à 20h. Les premiers résultats seront annoncés à partir de 20h. Et nous serons en direct sur Radio 1 et Thierry FM et sur Internet, sur la page Facebook et sur le site de Radio 1.
La quatrième édition de la Tahiti Fashion Week se poursuit dans les jardins de l'Assemblée avec notamment un concours de mannequins organisé par Albert Auvé et Laurence Joutin.
La gagnante pourra participer à des tests photos à Milan avec l'agence Brave Model Management. Son directeur, Matteo Paoletta, confie avoir déjà repéré 4 jeunes filles sur les 12 candidates en lice. Mais trouver la perle rare n'est pas si facile.
Hier, j'ai été agréablement surpris parce que j'ai découvert des défilés très professionnels. Malheureusement, dans ce business, il y a des canons de beauté pour les femmes. Il faut avoir un corps fin, ce qui ne veut pas dire maigre, mais en bonne santé. Un joli visage avec des mouvements élégants et il faut mesurer au moins 1m77 à 78 dans ce business.
78 to do this business.
Des propos recueillis par Vehi Toupay. Et c'est ce soir qu'on saura qui a été choisi par l'agence de mannequins italienne.
Et puis encore un mot pour vous annoncer le lancement d'un nouveau magazine de sport, Sport Tahiti.
Le site internet se diversifie en lançant aujourd'hui son magazine trimestriel, Sport Tahiti Mag. Et c'est Pour Enena qui est à la tête de ce nouveau magazine, Pour et que l'on connaît bien ici puisqu'il présente les journaux des sports. Sport Tahiti Mag est tiré à plus de 20 000 exemplaires et il sera distribué donc à partir d'aujourd'hui. Et c'est la fin de ce journal.